Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse. Il s'agit de la clôture de la convention de la coalition politique de l'opposition Sauvons la RDC. L'objectif visé étant d'analyser la marche du pays et apporter, le cas échéant, des propositions, des solutions aux problèmes, notamment de cohésion nationale et du débat actuel autour du processus électoral en RDC. Comme deuxième sujet, nous parlerons du mouvement des Bakatakatonga, observé depuis près de deux semaines dans le triangle de la mort à Pueto, Manono et Mitoba au Katanga. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de J.R. Mokolo, il est rédacteur en chef à Kana Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Oui, bonsoir Samuel Kachak.
Nous sommes également avec Médard Mbouyal Mangala, rédacteur en chef adjoint à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Bonsoir Médard Mbouyal Mangala.
Bonsoir Samuel.
Et nous sommes aussi avec Trésor Makunya Muindo, journaliste à la radio Mitumba d'Uvira et correspondant au Sud Kivu de Sifia Grand Lac. Bonsoir Trésor Makunya.
Très heureux d'être encore une fois avec vous dans cette émission. À toutes et à tous, bonsoir et merci de votre invitation.
Bienvenue à tous dans cette émission. La clôture de la convention de la coalition politique de l'opposition Sauvons la RDC et le mouvement des Bakatakatonga observé depuis près de deux semaines dans le triangle de la mort à Pueto, Manono et Mitoba au Katanga figure parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La convention de l'opposition, le sommet Union Européenne Afrique et l'affaire Bakatakatonga étaient à la une de la presse de cette semaine. L'opposition proclamée réclame un dialogue inclusif en main. Une convention de l'opposition et de la société civile s'est tenue à Notre-Dame de Fatima cette semaine, à notre forum des As. L'une des recommandations les plus importantes de la convention est celle appelant à un dialogue inclusif en main prochain. Les participants à cette convention exigent en outre que la CENI soit réellement indépendante, que la Cour constitutionnelle se démarque de l'appareil judiciaire et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication cesse d'être la caisse de résonance du pouvoir. Les participants ont résolu que les dialogues sincères, vrais et inclusifs demeurent indispensables avant les échéances électorales conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 27 mars 2013, affirme la tempête des tropiques. Par ailleurs, les participants de cette convention rejettent toute idée tendant à changer les modes d'élection du président de la République et des députés provinciaux rapportent le potentiel. Envie de sauvegarder la paix sociale et la stabilité politique dans notre pays, la constitution du 18 février 2006 ne doit faire l'objet d'aucune révision ou changement, indique-t-on dans la déclaration finale. Radio Capiponet fait état de la sonnette d'alarme tirée par l'évêque de Kilwakasenga au sujet de Bakatakatonga. Selon Monseigneur Fulgence Muteba, un mouvement des miliciens Bakatakatonga est observé depuis près de deux semaines dans les territoires de Pueto, Manono et Mitoba, surnommés Triangle de la Mort. Ces miliciens proviendraient des environs de Lubumbashi et se dirigeraient vers les vallées du territoire de Mitoba, précise l'évêque de Kilwakasenga, qui craint que ces miliciens ne se réorganisent pour attaquer et brûler des villages. En réaction, la 6e région militaire de l'armée congolaise dit prendre en compte ces informations et promet de mettre ces miliciens hors d'état de nuire. Radio Capiponet rapporte encore que la sécurité, la bonne gouvernance et le développement humain sont les priorités de l'Afrique et de l'Union européenne pour la période allant de 2014 à 2017. Au cours du 4e sommet Union européenne Afrique, qui s'est clôturé jeudi 3 avril à Bruxelles, les chefs d'État des deux continents et les présidents des institutions concernées se sont engagés à coopérer plus étroitement afin de prévenir les crises et de s'attaquer aux racines de l'instabilité, de la fragilité et des conflits pour éviter leur résurgence et accélérer le redressement durable. Une feuille de route définissant ces priorités stratégiques et les moyens de les mettre en œuvre a été entérinée au cours de ce sommet.
J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Canal Congo Télévision, une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Vous venez de suivre cette revue de presse que nous a proposée Guy Maté. L'actualité cette semaine est aussi marquée par la clôture hier à Bruxelles du 4e sommet Union Européenne-Afrique. Un petit commentaire par rapport à cette actualité.
Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, une rencontre des routines entre l'Union Européenne et l'Afrique. Bon, on a eu des résolutions, des décisions, mais ce qui sera important, c'est de voir véritablement l'Europe, dont fait partie pratiquement beaucoup de pays qui ont colonisé l'Afrique, de pouvoir quand même trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Je prendrai par exemple quand on parle des droits de l'homme. Le non-respect des droits de l'homme, c'est surtout parmi les raisons qui font en sorte que les Africains quittent en masse le continent noir pour aller chercher refuge ou chercher à vivre mieux en Europe. Et on voit même les drames qui se jouent à Lampedusa, où des milliers d'Africains perdent la vie pratiquement chaque année parce que voulant aller de l'autre côté de la Méditerranée pour trouver mieux. La solution, ce serait de faire en sorte que on aide quand même les pays africains à avoir des régimes qui respectent les droits de l'homme et que les pays soient véritablement mieux gérés pour faire en sorte que les causes qui font que les gens fouillent le continent noir puissent disparaître. Sinon, on peut bloquer la frontière de l'Union européenne aux Africains, mais si les causes qui sont à la base de tous ces déplacements des populations ne sont pas prises en compte, en charge, donc, on trouvera jamais de solution à ces problèmes d'immigration clandestine d'Africains vers l'Europe.
Mesdames Bouya Mangal, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNT. L'actualité cette semaine est aussi marquée par le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le chef de la mission des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a affirmé mercredi dernier que la mission va partir graduellement du pays. Mais néanmoins, ce départ, qui nécessite bien sûr des préalables, prendra fin le temps de mettre en place une force des réactions rapides. Un petit commentaire.
Bien, j'aimerais dire que j'étais le tout premier journaliste congolais à faire le premier reportage sur l'arrivée des premières brigades de la MONUC à l'époque, au moment où le bureau se trouvait sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Le premier reportage, c'est moi qui l'ai fait. 15 ans après, il va effectivement se poser la question de départ pour un pays qui a déjà organisé deux fois les élections 2006, 2011 et bientôt 2016. Il va effectivement, il y a un désir réel de voir aussi ces institutions s'affermir, se renforcer, se consolider de manière à se dégager au lieu de voir la RDC de tout le temps assistée par la communauté internationale, que la RDC soit demain capable de déployer à la fois ses troupes, de déployer son personnel dans d'autres pays, parce que l'expérience de 15 ans avec la MONUC, devenue par la suite la MONUSCO, devrait aider nous les Congolais à penser autrement la coopération internationale, ou surtout à créer les conditions de consolidation de la paix, de consolidation de la démocratie, de la gouvernance. Voilà les éléments qui expliquent la présence de la MONUSCO dans notre pays. Et donc, faisons en sorte que demain, la MONUCO puisse réellement partir et que nous puissions tirer profit de ce qui s'est passé pendant 15 ans avec l'assistance de la communauté internationale.
Trésor Makunya, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Mitumba d'Ouvira et correspondant au Sud Kivu de Sifia Grand Lac. Quelle est l'actualité à la une cette semaine dans la province du Sud Kivu et particulièrement à Ouvira où vous êtes?
Merci Samuel, tu pourras me permettre un tout petit peu de coupler un peu les deux interventions de collègues. Union européenne, Afrique, mais aussi la MONUSCO. Je dois aussi rappeler que nous devons, nous Congolais, éviter l'attentisme de la émanant de la communauté internationale. Attendre que tout pourra se faire, tout qui doit se faire, tout le mieux de Congolais doit émaner de la communauté internationale. Je me rappelle du reportage de mon collègue Mathieu Mokolo, de l'Équateur, de Sichia Grand Lac, qui a parlé du retrait de la MONUSCO là-bas, et les gens commencent à craindre, les gens commencent à se lamenter. Moi, personnellement, j'ai fait un reportage du retrait du ACR à Baraka, dans le territoire de Tizi. Les gens, les autorités, les ONG locales ont poussé un cri d'alarme disant que le ACR qui aidait commence à partir. Donc, moi, je pense, comme le disait mon frère Médard, nous devons voir comment prendre la relève. La MONUSCO est là, Médard l'a rappelé, 15 ans depuis. Qu'est-ce que nous faisons pour remplacer la brigade? Qu'est-ce que nous faisons pour remplacer le bureau des affaires civiles? Nous sommes juste là, en train d'attendre, peut-être que ça pourra aller. Je rappelle même que nous pouvons mieux faire, nous pouvons mieux vivre, si nous ne recevons pas les aides de la communauté internationale, si nous gérons très bien nos ressources, si nous faisons une très bonne gouvernance. À Ouvira, outre les quelques cas de corps inanimés retrouvés par-ci, par-là dans des rivières, l'actualité, en tout cas, est marquée par cette recrudescence des cas de choléra signalés dans le territoire d'Ouvira, dans la plaine d'Arouzizi et dans la cité. Dans la plaine d'Arouzizi, 20 nouveaux cas ont été enregistrés, et ça s'ajoute exactement aux 300 enregistrés en février dernier dans la zone des centres de la plaine de la Rosésie. Et dans la zone de santé d'Ouvira, il y a eu aussi 100 cas de choléra qui ont été enregistrés, notamment 2 décès, ce qui
remet en cause alors la politique de prévention de toutes ces maladies. On se rend compte qu'il y a une politique temporaire et non une politique permanente. Et tout est basé sur les ONG, tout est basé sur les structures associatives et non le gouvernement. Ça piétine un peu. Le gouvernement devrait voir comment remédier cette situation.
Merci beaucoup, Trésor Makounia. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous passons directement à notre premier sujet de ce soir. Sauvons la RDC, la plateforme sociopolitique de l'opposition dite constructive, propose sa feuille de route relative au processus électoral en RDC. Au terme de 4 jours de sa convention d'unité de l'opposition et de diagnostic de la situation politique du pays, Sauvons la RDC adopte une 60aine de résolutions qui se résument en la refondation d'un État de droit réellement démocratique. Elle recommande par ailleurs au chef de l'État et à sa famille politique de ne pas modifier un seul iota de la Constitution. C'est un reportage de Jeff Ngoy.
Pour consolider la démocratie dans notre pays, la plateforme Sauvons la RDC pense qu'il sied de l'asseoir sur les fondations solides. Il est impérieux, croit-elle, que la CENI soit réellement indépendante et neutre, d'où sa feuille de route suggère un dialogue inclusif en mai de cette année. La révision de la loi électorale durant la session parlementaire en cours, en même temps la requalification du bureau de la CENI, l'élaboration de la cartographie électorale au deuxième semestre de l'année. Elle exige les élections combinées locales, municipales, urbaines et provinciales au suffrage universel et direct. Sauvons la RDC rejette le monde du scrutin indirect. Elle déclare attendre se réaliser la passation de pouvoir entre le président de la République en exercice et le nouveau président élu le 15 décembre 2016. Pour maquiller son désaccord avec la convention et manifester l'unité de l'opposition, le parti de Mboussa Nyamwisi, RCD-KML, qui avait claqué la porte de la convention, rejoint enfin ses partenaires.
Mesdames Mouya Mangal, vous venez de suivre ensemble avec nous ce reportage de Jeff Ngoy. Comment est-ce que vous analysez la tenue de cette convention de l'opposition?
Ça entre dans la droite ligne du débat politique en République démocratique du Congo, comme chacun le sait. Le débat politique est dominé par l'échéance de 2016 avec la fin du mandat du président en fonction, le président Joseph Kabila. Et donc, c'est autour de ça qu'il y a cette dynamique du débat. Ça signifie que les Congolais sont préoccupés du sort de leur pays, parce que souvenez-vous, il y a pratiquement une semaine, la majorité, son personnel et tous les cadres se sont réunis à Kingakati autour du président de la République et ils ont planché autour de la même question. Il est tout à fait normal que l'opposition réunie autour de Vital Kamerhe et d'autres alliés puisse eux aussi aborder la même question. Ça signifie que les Congolais aimeraient jouer un rôle quelconque autour de, et donc sur la scène politique nationale. Et donc ça fait partie des stratégies, ça fait partie du débat. C'est tout à fait normal que les uns et les autres réagissent ou interagissent autour du débat national.
Gérard Mokolo, un petit commentaire. Quelle analyse vous faites de la tenue de cette convention de l'opposition?
Bon, en fait, moi je me dis que c'était annoncé bien avant, parce que comme la majorité pour ça s'était retrouvée autour de son autorité morale à Kingakati, c'est normal que des opposants aussi puissent donner de la voix par rapport à les options levées par la majorité présidentielle. Mais quand on intitule cette convention d'unité de l'opposition, au sorti de cette convention, je n'ai pas vu cette unité de l'opposition scellée. Au contraire, j'ai même noté, par exemple, des voix discordantes au sein même de cette plateforme Sauvons la RDC, notamment Steve Bikai, qui a claqué la porte et qui n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. Bon, ils disent qu'ils niaient à la modification de la Constitution. Ça, c'est pratiquement toute l'opposition qui le dit. Bon, ils demandent que la CENI soit réellement indépendante. Ils ont même annoncé qu'ils vont déposer les documents pour pratiquement rejeter Malou. Ça posera un problème, moi je ne sais pas. Au lieu que l'opposition mène des combats autour de Malou, tout ça, parce que c'est pas pour rien que la majorité a imposé Malou. Vous vous rendez compte que Malou n'a même pas eu le cutus de son église, l'église catholique, pour être là où il est maintenant. Donc il y a des gens qui trouvent leur compte dans la présence de Malou à la tête de la CENI. Et je ne vois pas cette majorité qui contrôle le Parlement vouloir demain que Malou puisse partir. Donc ce que je demanderais aux opposants de faire d'abord, c'est se battre pour leur unité. Ils se battent pour leur unité, faire en sorte que vraiment cette opposition, lorsqu'aujourd'hui, puisse parler de même voix. Parce que cette opposition aujourd'hui est pratiquement émiettée. vous trouvez la mouvance qui réunit Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, vous allez trouver les MLC alliés qui sont dans une autre mouvance, vous allez trouver l'UDPS de Tshisekedi qui n'a rien à voir avec ceux qui sont dans les institutions, vous trouvez un autre groupe UDPS allié qui est au Parlement, et ça fait des ordres. Et du moment où nous n'avons qu'un seul tour pour l'élection présidentielle, parce que l'enjeu principal pour les uns et les autres, c'est l'élection présidentielle. Comment est-ce que ces gens-là vont aller aux élections avec les candidats de la majorité qui s'appellent Kabila ou quelqu'un d'autre, diviser et l'emporter? Je crois que ça devrait être pratiquement leur combat de tous les jours, plutôt que de passer de leur temps à récolter des signatures contre Malou Malou, sachant très bien qu'in fine, ce dossier ira au Parlement, et le Parlement en majorité contrôlé par la mouvance kabyliste, et cette mouvance kabyliste qui s'est battue bec et ongle pour avoir Malou Malou à la tête de la CENI. Donc moi, je ne vois pas que cette démarche-là pourra réussir. Donc, s'ils peuvent se battre pour faire en sorte que, in fine, même à quelques mois des élections, ils puissent quand même parler le même langage, et que les uns et les autres acceptent que de se mettre derrière X, Y leader qui pourra peut-être être sorti à la suite des primaires de l'opposition. Au cas contraire, moi, je ne vois pas tout ce qu'on demande. Voilà, il faut qu'on organise des dialogues au mois de mai. Les gens qui étaient en concertation accepteraient demain de pouvoir réunir encore un autre dialogue pour faire un état des lieux qui a déjà été fait depuis la conférence nationale souveraine à Sand City, ça a été fait dernièrement aux concertations nationales, ça a été fait. Donc le problème du Congo sont connus, c'est il reste seulement la volonté politique pour pouvoir appliquer des solutions et trouver des solutions à tout ce qu'on a comme problème. Ce n'est pas d'aller de convention en convention, de dialogue en dialogue qu'on résoudra le problème du Congo.
Trésor Makunya, vous venez de suivre J.R. Mokolo qui vient de plancher là-dessus. À l'ouverture même de cette convention de l'opposition, on a remarqué que l'opposition a été divisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure vraiment que cette opposition congolaise parlera le même langage lorsqu'on sait qu'elle a du mal à se fédérer autour d'un leader commun? J.R. même l'a relevé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça effectivement, Samuel, parce que au départ, on s'est dit la démarche est tout à fait démocratique, parce que l'opposition devrait jouer le rôle de contrepoids au pouvoir.
Mais elle est divisée là.
Exactement, le constat est tout au moins décevant, parce que on a assisté au claquement de portes par plusieurs partis d'opposition. Je croyais personnellement que comme on taxe la majorité présidentielle de tous les maux, les sérieux et la cohésion entre opposants devraient régner. Apparemment, je me trompais, car c'est guéguerre. En tout cas, Samuel, frise la recherche de la satisfaction des intérêts des acteurs politiques plutôt que ceux du souverain primaire. Je dois en tout cas vous avouer que cette démarche a toujours manqué à nos acteurs politiques, la démarche de rechercher l'intérêt du peuple, parce que lorsque on analyse plusieurs situations survenues dans ce pays, on a tendance à aboutir à cette conclusion-là. C'est pourquoi même certains vont très loin en disant, par exemple, que rien n'est garanti que si l'opposition était au pouvoir, la fringale du Congolais lambda serait assouvie. Donc sur le plan formel, ça pêche un peu, et nous pouvons, à tort ou à raison, leur imputer l'immaturité politique, mais parfois aussi le nomadisme politique. Cependant, cette analyse assourdissante, Samuel, de la forme et de ses assises ne doit pas occulter les importantes résolutions qui y émanent. J'ai toujours été de ceux qui pensent que peu importe la classe politique à laquelle on appartient, nous avons tous un dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Entre nous, soit dit, la majorité présidentielle et l'opposition devraient cesser de se regarder en chaîne de faïence, mais plutôt en face pour l'avenir de ces pays. La question qui fait couler beaucoup d'encre est de salive. Rappelez-vous, Médard et J.R. viennent de le rappeler, celle de la révision constitutionnelle devrait, à mon avis, être clarifiée par ceux qui sont actuellement accusés de vouloir tripatrier cette loi fondamentale à des fins de détermination au pouvoir. Dans toute démarche, nos dirigeants, comme je le disais, devraient rechercher l'intérêt supérieur du peuple, sinon tout sera biaisé. D'accord, bien que contesté, il y a à quelques niveaux certaines avancées au pays, Samuel, mais ce n'est pas à dire qu'elles les sont grâce à des individus. Ce sont plutôt des institutions, donc quelqu'un d'autre peut parachever l'œuvre que quelqu'un ou un président a commencé, car c'est un programme qui est là, accepté de partir dans l'intérêt des Congolais, pour ainsi appuyer sur l'accélérateur de la cohésion nationale longtemps recherchée et qui a fait même l'objet des concertations. Comme Ngoï Moulunda, comme Malou Malou demeure jusqu'à la contester, il est vrai que théoriquement, ils n'y ont pas été placés par le pouvoir, mais pour cesser ces troubles, ou épargner les élections de toute critique, prière en tout cas, placer un autre homme dont la neutralité ne ferait l'ombre d'aucun doute. Encore une fois, je dois admirer l'énième rappel fait par l'opposition au sujet d'élections municipales. Aujourd'hui, nous avons d'autorités décentralisées des carrières qui sont toujours là, incontrôlées, pas de conseils urbains au niveau de la ville. Les députés provinciaux sont aujourd'hui, je crois, à 8 ans. Les gouverneurs sont toujours là. On a en tout cas des gens qui s'éternisent au pouvoir. Il y a des gens qui sont incontrôlés parce que lorsqu'on voit des entités territoriales qui n'ont pas d'organes de contrôle, par exemple la ville qui n'a pas aujourd'hui les conseils urbains, tout se fait comme on voudrait.
Trésor Makunya, je reviens à vous tout à l'heure. Mesdames Bouyamangala, dans sa feuille de route relative au processus électoral, la plateforme de l'opposition Sauvons le Congo suggère notamment l'organisation en mai prochain d'un dialogue inclusif, la révision de la loi électorale durant la session parlementaire en cours, la requalification du bureau de la CENI, l'élaboration de la cartographie électorale au deuxième semestre de cette année. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes ces propositions sont réalistes?
Bon, on n'a pas à considérer réaliste ou pas réaliste. Moi, je considère que ce sont des stratégies de présence et d'existence de l'opposition. Dès lors qu'il y a eu élection en 2011, on reconnaît qu'il y a une majorité. Dès lors que dans un pays, il existe une majorité, tout naturellement, il existe une opposition.
Nous sommes déjà au mois d'avril, lorsqu'il demande à ce que tous ces éléments-là soient faits dans un temps record.
Oui, est-ce que vraiment matériellement, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit... une plateforme tenue, une réunion. Ça veut dire, tous les jours, on est en train de réfléchir autour du Congo. Et tous les jours, chacun est en train de produire des actes. Mais il suffit que des acteurs en présence acceptent de se mettre autour d'une table. Une journée suffirait pour pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. On ne doit pas considérer. Parce qu'en fait, le vrai problème que notre ennemi à nous tous, c'est le temps. De part et d'autre, on doit réaliser que le temps est en train de couler. Lorsqu'on a l'art de minimiser le temps, et donc on va dire non, c'est tout à fait possible, s'il y a de la volonté politique, c'est tout à fait possible que les acteurs clés autour du pays puissent se parler. Donc maintenant, il se parle à travers les médias interposés, il va falloir que demain, il se parle véritablement autour d'une table, et chacun va tirer profit, et la majorité, et l'opposition elle-même.
Gérard Mokolo, comment est-ce que vous analysez cette feuille de route de l'opposition?
Bon, en fait, c'est beaucoup de bonnes intentions, mais je crains que ça risque d'être en tout cas de vœux pieux. Et je voudrais quand même, Mbouyal a dit que non, il va falloir que les gens se retrouvent autour d'une table, mais le niveau des relations que les opposants et ceux qui sont au pouvoir entretiennent, c'est en fait des relations d'inimitié. C'est pratiquement comme si des gens qui étaient des ennemis ne sont pas des adversaires politiques.
C'est ça le grand problème. Je dois inscrire cette manière
c'est le début de la transition.
On revient à vous.
C'est vrai, dès le début de la transition, on a voulu. Nous, les médias,
est-ce que je peux finir
la démonstration?
Médard, c'est hier qui a la parole. Oui,
je me rappelle, par exemple, je suivais Francis Kalombo sur Radio Okapi. Il disait, par exemple, que la majorité ne peut pas faire des cadeaux à l'opposition et que la mission de la majorité présidentielle était de pouvoir affaiblir l'opposition. Donc, quand déjà on part dans une telle philosophie politique, on se rend compte que les intérêts du Congo sont mis pratiquement renvoyés au calendrier grec, et que ce qui importe, ce sont les positionnements des uns et des autres. Les gens disent, toi de là que je m'y mette, je suis, j'y reste. Et c'est ce qui pose un grand problème, c'est celui-là. Donc, même au sein de la majorité, ce n'est pas aussi une mer tranquille. On a pratiquement aujourd'hui un clivage. Ceux qui sont pour que le président Kabila respecte les principes de la Constitution qu'à la fin de son mandat et puisse se représenter, que peut-être la famille politique choisisse quelqu'un d'autre qui puisse peut-être se battre pour garder le pouvoir. Mais il y en a d'autres, des faucons. Et j'en ai suivi même certains hier sur Gomo Web qui disent que non, le président Kabila n'a pas encore achevé sa tâche. Il est encore jeune. Il s'est battu pour le Congo. Il peut pas laisser le pouvoir comme ça. Et je vois même un ministre écrit dans un journal, Kabila Totondioté, tout l'imbionan était comme si le chef de l'État, c'était une nourriture qu'on devait manger tous les jours. Donc, vous voyez, une telle conception du pouvoir, c'est une conception assez dangereuse pour les pays où on se dit, on est là, il faut qu'on préserve notre pouvoir à tout prix, par tous les moyens, s'il faille tuer, s'il faille faire tout. Coûte que coûte, il faut garder ces pouvoirs-là. Et c'est comme si jamais les chefs de l'État actuels respectaient la Constitution et que c'est un opposant qui passerait au pouvoir, ce serait un étranger qui va diriger le Congo. Ce serait toujours un Congolais. Donc, vous voyez, c'est un peu la conception du pouvoir dans notre pays. Le pouvoir est conçu comme un emploi, comme une source d'enrichissement, une source de revenus. Et ce qui fait que quand on est dedans, on se dit, si on perd ce pouvoir-là, ce sont les avantages que nous allons perdre. C'est peut-être l'insécurité sur le plan personnel. Ceux qui viendront demain au pouvoir risquent peut-être de s'en prendre à nous. Alors, il faut garder ce pouvoir-là par tous les moyens. Et ça crée des frustrations. Et in fine, si les gens qui sont dans l'opposition n'arrivent pas à accéder au pouvoir de façon démocratique, ce sont souvent les voies de la violence qui sont utilisées. Et ce serait dommage pour le Congo.
Une brève réaction, Médard, avant de donner la parole à Thérèse Omakunga.
Ok, j'aimerais dire que depuis tout le temps, le discours politique congolais a toujours été un discours polarisé. Et nous, les médias, en tant qu'historiens du présent, nous avons participé à cette polarisation du discours. Mais c'est à nous d'aider les acteurs à revenir sur terre. Et nous devons rappeler, par exemple, ce que nous avons vécu. Parce que, dites-vous, à un certain moment, sous la Deuxième République, on a élaboré la stratégie du vide. En dehors de Mobutu, pas de vie. Donc, nous devons aider les gens de la majorité à ne pas être les percepteurs de cette vision. Parce que aujourd'hui, on constate que dans l'entourage du président Joseph Kabila, les Mobutus sont très présents. Or, ils ont vécu une histoire. Donc, nous devons aider à valoriser.
Mais les gens qu'on voit à la télé, ce ne sont pas les Mobutus.
L'espace social, non, nous devons aider à valoriser l'espace de vie. Et donc, pour aider les gens à croire que c'est le Congo qui représente l'intérêt à nous tous. Parce que si on perd le Congo, chacun perdra, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition.
Merci, Médard. Merci Médard. Trésor Makunya, souvent la RDC exige l'organisation des élections locales, municipales et urbaines et provinciales combinées et au suffrage universel direct. Elle rejette en bloc le mot de scrutin indirect. Selon vous, quelle est l'alternative acceptable pour rapprocher les différentes tendances autour de cette question relative au mot de scrutin en 2016?
Oui. Pour certains, le pays n'a pas de l'argent pour organiser des élections comme l'ont prévu plusieurs textes juridiques, c'est-à-dire des élections séparées, à suffrage direct. Pour d'autres, il faut les coupler. Bon, ils estiment alors qu'il faut les coupler pour qu'on ne puisse pas gaspiller de l'argent. Mais moi, je pense tout autour de tout ça, c'est la recherche des intérêts plus purement personnels. Parce que quand on dit, par exemple, que les élections indirectes sont plus mieux que les élections directes, c'est tout simplement parce qu'on sait que ceux qui vont voter aux élections indirectes seront soumis à une certaine autorité et pourront juste dire ok, on y va. On vient de dire, il y a des gens qui font déjà des cultes de personnalité, comme qui dirait sans X, les Congos ne seraient plus là où nous sommes, alors que ce sont des institutions, les hommes passent, les institutions restent. 32 ans ont suffi pour que Mobutu parte et finisse au Maroc. Les autres vont aussi partir. Donc j'estime que l'alternative la plus puissante, efficace et efficiente est celle prévue par les textes. Les élections locales doivent être organisées. Aujourd'hui, nous avons des députés, bon, entre guillemets, des carrières, parce que 8 ans déjà au pouvoir, ils sont là et j'espère qu'ils iront même à 10 ans. Donc, ils auront combiné 2 législatures, mais tant que la constitution reste respectée, ils ne sont pas là dans l'illégalité, mais ils ne sont plus légitimes. Donc, moi, je pense qu'il faudra organiser ces élections afin que l'on puisse voir d'autres personnes devant les institutions, l'on puisse voir d'autres personnes responsables du devenir meilleur des Congolais, même si on se rend compte généralement que ce sont des gens qui défendent leur propre chapelle plutôt que les intérêts congolais qui souffrent, les Congolais qui sont à l'est, à l'ouest, comme au centre du pays, en train de croupir dans la misère, et d'autres sont en train de vivre dans des conditions d'aisance à outrance, à Kinshasa, dans des fauteuils. On dirait qu'il y a des gens qui ont même étudié des ministères parce qu'ils roulent. Il est ici, il est là, alors qu'il y a des gens qui souffrent. Donc je vois, lorsqu'on place les intérêts du peuple au centre, tout ça, tous ces débats n'auraient même pas raison d'être, parce que lorsqu'on voit l'opposition tire à ce côté, le pouvoir tire aussi, on dirait que si l'opposition était au pouvoir, tout irait au vert, comme on dit la signalisation routière, tout irait au positif. Non, il ne faut pas faire croire aux gens que si moi j'étais là, tout irait très bien. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des circonstances qui font à ce que certains projets ne soient réalisés. Il y a certaines avancées, certainement, mais les gens doivent accepter de partir pour que les autres puissent s'asseoir et faire du mieux. Les autres qui seront choisis directement par le peuple et non indirectement par le peuple, parce que l'expérience est tout à fait autre. On voit à l'Assemblée nationale, par exemple, ce que voudrait le peuple. On a révisé la Constitution en 2011. Je me demande si on demandait à la population son avis directement pour la révision de la Constitution. J'espère qu'elle ne serait pas d'accord. Mais comme on est dans le système de représentation, tous les Congolais ne doivent pas aller à Kinshasa pour siéger. On a envoyé 500 personnes. Malheureusement, ces gens-là, en tout cas, ils ne sont plus vraiment représentatifs, comme on pourrait le dire. Ils ne défendent plus la chapelle du peuple. Ils se soumettent
à leurs
dirigeants politiques. Donc, je crois que, comme on disait ensemble ici, les intérêts des Congolais doivent être mis en avant. La RDC, c'est notre mère, c'est notre dénominateur commun, que nous sommes de la société civile, de la pouvoir présidentielle comme de l'opposition.
Merci Trésor Makounia. Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. Un mouvement des Bakatakatonga est observé depuis près de 2 semaines dans le triangle de la mort. Selon l'évêque du diocèse de Kilwakasenga, ces miliciens proviendraient des environs de Lubumbashi et se dirigeraient vers la vallée du territoire des Mitwaba. Monseigneur Fulgence Muteba craint que ces miliciens ne se réorganisent pour attaquer et brûler des villages. Ce prélat catholique est joint par Denise Maero.
Les paysans ont attesté qu'il y a un mouvement massif, Mai Mai Wakatakatanga, qui quitte la région de Lubumbashi pour se rendre dans le triangle de la mort. Alors, on a d'abord vu un groupe de 12, c'était des jeunes gens qui ne parlaient à personne et qui apparemment connaissaient le chemin. Et puis, on a vu un plus grand groupe, c'était difficile d'avoir un chiffre précis. Alors, à leur passage, ils arrachent tout ce qui se trouve dans le champ, mais il y a déjà quelque chose qui nous inquiète, c'est que cette politique de la terre brûlée augure qu'ils veulent avoir un territoire pour eux, mais malheureusement, ils ne l'administrent pas, prennent des gens en otage, c'est une situation très dramatique. Tout porte à croire, il y a un afflux justement des Bakatakatanga qui ont dégarni les alentours de Lubumbashi pour rentrer dans leurs fiefs, dans les vallées, les collines du territoire de Mitwaba en particulier.
En réaction, la 6e région militaire dit prendre en compte ses inquiétudes et promet de mettre hors d'état de nuire ses miliciens. Écoutons le général Mbwayama Siona, commandant de la 6e région militaire, au micro de Madeleine Waila.
Je crois que cette inquiétude est légitime. Comme vous savez, je voudrais d'abord rassurer cette population de Kasenga en particulier et celle de tous les districts du Haut-Katanga en général, que nous avons la mesure de la menace. Comme vous savez, nous avons eu une grande réunion. Nous préparons la tripartite MONUSCO, gouvernement provincial et partenaire en ce qui concerne justement la traque de ces inciviques dans, non pas le triangle comme vous le décrivez, mais maintenant c'est pratiquement un rectangle parce que ça comprend Moba, Manono, Malemankulu, Mitwaba et Pweto. C'est un rectangle dans, en fait, où ils sont en train de se diriger. Et que la population soit rassurée, leur armée est en train de planifier Kifakio 2 qui va procéder au nettoyage de toute cette zone-là. Et bientôt, avec la fin de la saison des pluies, je crois qu'ils n'auront pas assez de repères pour se cacher. Bientôt, nous allons lancer une vaste opération pour nettoyer cette zone-là. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes parce qu'ils sont en train de ravager le champ, parce qu'ils sont à court de logistique.
Gérard Mokolo, quelle lecture alors vous faites de cette situation préoccupante au Katanga? Vous venez de suivre ce reportage.
Je me rends vraiment compte que l'État congolais est vraiment dans un état de liquescence très très avancé. Et que même le départ de la MONUSCO, tant réclamé par des Congolais, j'ai comme l'impression que ceux qui gouvernent le pays ne se battent pas pour qu'on remplisse les conditions pour que demain la MONUSCO parte. Et je me rends compte que pratiquement à la 15e année de la présence de la MONUSCO, et c'est à ce moment-là que la MONUSCO doit s'impliquer pour, par exemple, prendre en charge la question sécuritaire dans les Katanga. Vous vous rendez compte que il y a, je crois, pratiquement une année, les Bakataka ont fait une promenade de santé jusqu'au centre-ville de Lubumbashi. Ils ont même planté le drapeau, je crois, de l'État indépendant du Katanga, tout ça. Et au vu aussi de tout le monde, il y en a qui ont été arrêtés, ramenés à Kinshasa, et après, on n'en sait rien. Et pourtant, dans un pays qui fonctionne normalement, les responsables de sécurité devaient quand même répondre de tous ces actes. Là, vous vous rappelez, par exemple, quand on a assassiné Moussa Laurent Désiré Kabila, il y a des responsables de sécurité qui sont aujourd'hui en prison pour avoir failli à leur mission. C'est comme ça que l'État fonctionne. personne n'a été sanctionné. Même les rapports produits par le Parlement n'ont jamais été publiés. Donc on se rend compte que pour la situation du Katanga, c'est comme s'il y a certaines personnes qui sont gênées, et qui sont complaisants, sont en train de laisser faire. Et pourtant, en laissant faire, le mal est en train pratiquement de s'aggraver. Et demain, nous risquons de nous retrouver dans une situation tout à fait incontrôlable. Et même quand le commandant de région dit que non, il faut attendre la fin de la saison de pluie pour... Mais non, on n'attend pas. Quand les gens sont tués tous les jours, comme le dit Monseigneur Fulgence Moutéba, quand les gens sont, ces gens-là sont en train pratiquement de se déplacer vers d'autres zones pour semer mort et désolation. Et nous, nous devons attendre la fin de la saison de pluie pour intervenir. Donc, l'État est vraiment en train de faillir au Katanga. Il faut que l'État se réveille. C'est pratiquement le numéro 1 de la MONUSCO qui s'est battu pour qu'il y ait des casques bleus là-bas pour assurer le désarmement ou l'attaque de ces Bakatakatanga. Si la MONUSCO l'a fait, c'est parce que nos services de sécurité n'ont pratiquement pas fait grand-chose. Donc moi, je suis inquiet. J'ai dit que l'attentisme du gouvernement risque demain de faire en sorte que, pendant qu'on est en train pratiquement d'éteindre les foyers du nord-sud Kivu, et même au niveau de la province orientale, demain nous risquons encore d'avoir un autre foyer de tension incontrôlable dans les Katanga. Et pratiquement l'insécurité reste comparable même à un monstre à plusieurs têtes. On coupe une tête ici à l'est, au nord-sud Kivu, et d'autres têtes sont en train pratiquement de pousser dans les Katanga. Il faut que l'État prenne en chemin ses responsabilités pour quand même sécuriser ces populations-là du nord et du Katanga et faire en sorte que ceux qui ont fait leur mission soient sanctionnés.
Mesdames Mbuyal Mangala, comment expliquer l'instabilité actuelle dans le Katanga qui, depuis un certain temps, était un peu plus calme, un peu plus stable? Gérard Moko l'avait dit, on était les foyers de tension au niveau du Kivu, au niveau du Katanga, ça s'allume. Est-ce qu'il y a des causes profondes par rapport à cela ou des enjeux politiques ou économiques qui font qu'en fait, ce foyer de tension se rallume davantage au niveau du Katanga?
Un ou deux éléments qui vont me permettre de rebondir sur la question. Le premier élément, c'est la pauvreté. Et c'est la stratégie de pauvreté sur laquelle on est tenté de manipuler les soi-disant Bakatakatanga pour réclamer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est le fait que les Bakatakatanga sont certainement manipulés par des politiques du Katanga qui sont tentés de se tromper certainement d'époque. Se tromper l'époque, c'est qu'ils ont oublié que ces gens-là ont mené la campagne pour le référendum de 2005. Et le référendum de 2005 a donné tout un visage de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on a mené campagne pour le référendum en 2005, c'est qu'on a accepté qu'il y ait découpage, c'est qu'on a accepté qu'il y ait la décentralisation. Voici des éléments clés de la constitution prévue par la constitution du 18 février 2006 et qui a connu des améliorations ou des amendements, je ne suis pas juriste, et qui a connu des formes améliorées ou pas par rapport à 2011. Et donc, c'est une stratégie de la misère. Comment s'explique la stratégie de la misère par rapport à tout ce qui est en train de se faire, de se passer au Katanga? Un, il n'y a pas eu véritablement un procès. Il n'y a pas eu un procès de ces gens-là pour qu'ils s'identifient, qui sont-ils par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo et par rapport au Katanga. C'est vrai, c'est une stratégie. On dit non, ils n'ont pas trouvé ceci, cela. Autre élément de la stratégie de la pauvreté, aujourd'hui la Gécamine a été dépiécée, à la limite émiettée. Parce que vous constatez par exemple que lorsque, vers 1985,
Sans pour autant vous interrompre, dans moins de 5 minutes, nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, mais voilà, je dis, il y a la dimension pauvreté et dimension manipulation. Pauvreté par rapport à ceux qui croient réclamer quelque chose. Pauvreté aussi par rapport aux gens qui sont derrière les Bakatakatanga. Mais c'est des acteurs qui sont tentés, par exemple, d'agir sur la machine qui devait faire la fierté du Katanga et la fierté de la République démocratique du Congo. Je vous donne le cas de la Gécamine. Aujourd'hui, la Gécamine a produit plus de 800 000 tonnes de cuivre. Et ce cuivre prend la route. Alors qu'autrefois, le cuivre prenait la dimension nationale en utilisant le chemin de fer qui permettait que tous les circuits ont dû bénéficier de cette croissance de la Gécamine et de cette production. Aujourd'hui, le Katanga prend le cuivre et utilise la voie de la route. C'est que le chemin de fer est écarté. Et toutes les autres entreprises qui autrefois bénéficiaient de la majorité ou de l'intérêt de la GKM. Et donc, je dis, il y a eu un référendum. Il faut que le référendum, la constitution soit respectée dans ce sens, qu'il y ait un procès et le découpage, il finira par arriver.
Trésor Makounia, je rappelle que nous sommes à près de 5 minutes de la fin de l'émission. Je vais vous demander des réponses brèves. Que faut-il pour pacifier cette partie de la RDC, Weto, Manono et Mitoba? Que faut-il pour pacifier cette partie du pays?
Oui, je devrais en principe commencer par le commencement pour dire peut-être que la question des indépendantistes katangais ne date pas d'aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a eu contre le peuple katangais qui est même parti en 1992 vers la Commission africaine des droits de l'homme pour demander l'indépendance de cette partie. Mais par rapport à cette question, je trouve que le gouvernement ne recherche pas des solutions durables à ces problèmes. Pour moi, si l'on ne cherche pas à guérir les causes de ces velléités sécessionnistes et revendicatives qui violent les droits humains en grande échelle, rien ne va changer. Médard a énuméré certaines raisons ou certaines causes qui pouvaient être prises en compte pour essayer un peu de voir comment se solutionner cette question. Pour moi aussi, l'armée devrait d'abord conquérir toutes ces entités qu'on dénomme déjà triangle de la mort. Le responsable de la 6e région militaire lui a dit rectangle de la mort, mais ça reste toujours des entités de la mort. Pour ainsi, il faut mener ces activités militaires pour soulager le peuple katangais et le peuple de l'Est du Katanga des profondes souffrances. Ensuite, organiser des vrais dialogues avec les fils et les filles du Katanga afin d'établir sur cette question. L'on ne peut pas comprendre que des personnes qui ont été maîtrisées récemment à Lubumbashi, certaines d'entre elles furent même envoyées à la base militaire de Kitona pour la formation militaire, reviennent en force pour semer terreur et désolation au milieu de la population. Et donc, une autre démarche dissuasive, c'est la justice. Il faut traduire ces criminels en justice, obtenir à tout prix leur condamnation. Mais cela ne suffit pas. Il faut assurer un contrôle efficace et efficient de ces maisons carcérales. Qu'admire la prouesse des juges du tribunal militaire de Kibushi, l'affaire Gédéon Mutanda et consorts. Mais où est Gédéon aujourd'hui? Les condamnés de Songombo et en Équateur, où sont-ils? L'affaire colonel Toms du tribunal militaire des garnisons de Kisangani en 2009 et à Bounia dans l'affaire Kakado, où sont les criminels?
Merci.
Plus tard, on se rend compte, selon des juristes, ils sont déjà évadés. Donc cela il n'y a pas une politique dissuasive par rapport à cette question. Donc quand quelqu'un a été condamné, tellement il se retrouve dans la rue, il recommence la même bêtise et que rien,
merci,
on ne sauve rien, on ne résout rien. C'est les statu quo, c'est un cercle vicieux. Comme qui dirait, il y a des gens qui trouvent leur compte, il y a des gens qui s'enrichissent dans cette situation en mettant les Katanga dans la situation dans laquelle nous sommes, la situation que nous sommes en train d'observer actuellement.
Merci, Trésor Makounia.
Les gens qui sont en train de mourir, il faut prendre en compte leur vie aussi parce que ça ne vaut pas plus, ça ne vaut pas moins.
Merci, Trésor Makounia. Je considère cela comme votre conclusion. J.R. Mokolo, une petite conclusion puisque nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, concernant par exemple l'affaire de Bakata Katanga, je dirais tout simplement que le gouvernement doit cesser en tout cas de mener une politique complaisante. On l'a vu par exemple dans le Bas-Congo et même à l'Équateur, quand il s'agit des forces insurgées, on a vu comment c'est l'État a sévi. Il faut que l'État aussi, au-delà peut-être du fait de prendre en charge d'abord la question de pauvreté évoquée par Mbuyal Mangal, il faut que l'État vraiment montre ses muscles, faire en sorte que ceux qui sont ont été arrêtés puissent être jugés, qu'on connaisse quand même les commanditaires. Enfin, on ne doit pas donner l'impression de pouvoir protéger certains commanditaires tapis dans l'ombre et qui permettent à ce que ces Bakata Katanga, ces morts et désolation dans le milieu des populations congolaises.
Mais dans votre conclusion,
la justice, rien que la justice, et puis aller dans le respect de la constitution de la République démocratique du Congo.
Je vous remercie et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. William Lungamba était à la technique, Guy Maté à la réalisation, Samuel Kachak vous a présenté cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo. La rediffusion de cette émission c'est demain matin 4h heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.